L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est le fait d'accepter les choses comme elles sont, d'accepter les changements dans notre vie. C'est la capacité à voir la réalité telle qu'elle est et ne pas croire que tout se passera toujours comme nous l'avions imaginé. Le lâcher-prise, c'est accepter que l'on ne maîtrise pas tout dans notre vie. On croit parfois pouvoir se protéger en essayant de tout contrôler, mais la vie est faite de surprises et d'imprévus, et tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Ces changements, ces imprévus occasionnent alors chez nous un stress, une crise, un problème. Il est alors nécessaire de lâcher prise. La Bible, manuel de bord, livre de conduite de l'être humain, nous permet d'expérimenter ce lâcher prise, le lâcher prise selon Dieu. Psaume 23, verset 1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le Seigneur est représenté ici comme un berger. Un berger, qu'est-ce que c'est ? C'est le conducteur du troupeau. C'est lui qui dirige ses brebis et qui leur apporte ce dont elles ont besoin. Il connaît où se trouvent les pâturages bien verts, il connaît les sources d'eau fraîche, rafraîchissantes. Il connaît chacune de ses brebis, il les connaît par leur nom, il connaît leurs besoins, leurs difficultés, ce qui leur est arrivé depuis leur enfance, et le berger défend ses brebis. Il n'a pas peur d'ailleurs de laisser 99 de ses brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. La brebis, quant à elle, connaît son berger. Elle reconnaît son visage. Il est prouvé qu'une brebis peut reconnaître plus de 100 visages. Elle reconnaît sa voix. Elle lui fait confiance et se laisse conduire, car avec lui, elle sait qu'elle ne manquera de rien. Elle est en sécurité. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un bon berger. Hier soir, comme par hasard, on lisait dans le livre d'Elsa, dans le petit moment avec Dieu, dans le livre d'Elsa et Jacob, que justement les brebis, elles ne savaient pas se débrouiller par elles-mêmes et qu'elles avaient besoin d'un berger. Parce que si on laissait des brebis tout seules, elles s'égareraient, elles se perdraient, elles s'oublieraient et du coup, sûrement, elles mourraient. La Bible, elle nous met d'ailleurs en garde contre les mauvais conducteurs, les conducteurs aveugles, comme elle dit. Matthieu 15, verset 14. Oui, nous devons faire attention à qui ou à quoi nous conduit, car il y a de mauvais conducteurs. Depuis l'enfance, nous avons en quelque sorte une succession de conducteurs. Nos parents nous conduisent vers l'âge adulte, ils nous conduisent dans la connaissance de la foi, nos professeurs nous conduisent dans l'apprentissage d'une matière, notre chef au travail nous conduit dans l'exercice de notre travail. En fait, notre vie durant, nous sommes conduits par des conducteurs. Mais il n'y a pas un seul de ces conducteurs qui ne soit sujet aux défaillances. Et un seul est digne de confiance sans limite. C'est pourquoi la parole nous dit « Un seul est votre conducteur ». Matthieu 23, verset 8 à 10 nous dit « Ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître. C'est le Christ, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. C'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler conducteur, car un seul est votre conducteur, c'est le Christ. » On ne peut pas se laisser conduire aveuglément par les autres ou même par nous-mêmes. Nous avons besoin d'un conducteur en qui nous pouvons avoir totalement confiance, en qui nous pouvons nous abandonner complètement. Le divin berger est le seul capable de nous conduire vers ce qui est bon pour nous et avec lequel nous ne manquerons jamais de rien. Verset 2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Ah, le repos. Voilà quelque chose qu'il est intéressant d'expérimenter dans le lâcher-prise. Car c'est bien ça que nous recherchons. Le repos, la sérénité, retrouver un état de stabilité, un état de paix. La brebis ne se rend pas toujours compte que le champ dans lequel elle est en train de paître est en train de s'appauvrir. Comme dans le jeu de tout à l'heure, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le berger, lui, le sait. Il dirige alors ses brebis vers de nouveaux pâturages afin de leur procurer l'herbe bien verte dont elles ont besoin, ou près des eaux paisibles pour qu'elles puissent se désaltérer. Je vois dans ce verset plusieurs choses. Premièrement, le besoin de s'alimenter et de s'abreuver. C'est un besoin indispensable, et même si on peut se passer de manger ou de boire pendant quelques heures ou quelques jours, et c'est bien un besoin fondamental. Je sais qu'il n'est pas évident dans notre vie bien remplie de se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. J'éprouve les mêmes difficultés. Si notre lecture n'est pas quotidienne, nous avons dans tous les cas besoin de nous nourrir et de nous rafraîchir le plus souvent possible. La parole de Dieu est présentée comme de la nourriture, et ce n'est pas sans raison. Je vais demander à celui qui a eu le verset de Matthieu 4:4 de le lire bien fort.
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Merci. Le Jean 6:51.
Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il vous donner sa chair à manger ?
6:51. Ah, pas. Merci. Ésaïe 55, verset 1.
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer.
Et, j'en ai oublié un. J'ai oublié Sephora. Mais on va faire Jean 7, 37. Merci. Et 1 Pierre 2:2.
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut.
Merci. Donc on voit bien que la parole de Dieu est représentée comme de la nourriture, comme de l'eau, comme quelque chose de rafraîchissant, et cette nourriture est nécessaire pour bien grandir. Deuxième chose que je vois dans ce verset, il est indispensable de rester en mouvement. Le berger dirige, conduit. Cela implique forcément un mouvement à donner à son troupeau. Le troupeau ne peut pas rester toujours à la même place, car l'herbe vient à manquer. Trouver de l'eau fraîche est également une nécessité. En tant que chrétiens, nous avons aussi besoin d'être constamment en mouvement. C'est ce qu'on pourrait appeler la transhumance chrétienne. Que se passe-t-il quand nous restons campés dans notre quotidien ? Eh bien, l'herbe s'appauvrit sous nos pieds et l'eau fraîche vient à manquer. Bien entendu, le changement, le mouvement est une source de stress, mais sortir de sa zone de confort est important. Comme les brebis, nous sommes exposés aux prédateurs, aux loups prêts à nous dévorer. Mais nous n'avons pas d'inquiétude à avoir puisque le bon berger est là, il nous protège. Bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri d'un incident, mais cela ne nous empêche pas de rester confiants. Une vie d'action conduite par le Seigneur. Quand on lit l'histoire des prophètes ou des hommes de Dieu, on voit qu'ils sont en mouvement. Ils sont sur la route car Dieu les envoie. Prenons l'exemple de Jonas. Écoutez bien les termes de l'action. Jonas 1, chapitre 1, verset 1 à 3. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il descendit à Joppé et trouva un vaisseau à destination de Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour se rendre avec eux à Tarsis, loin du Seigneur. Donc Dieu adresse une parole à Jonas qui se lève et va. Vous allez me dire que l'exemple est très mal choisi, puisque Jonas se lève et va, mais il ne va pas là où Dieu l'a envoyé. Il l'envoie à Ninive, Dieu, et Jonas prend la route de Tarsis, de l'autre côté, pour fuir loin du Seigneur. Alors je suis d'accord, Jonas n'obéit pas tout de suite à Dieu. Mais c'est aussi pourquoi j'ai choisi ce passage. Jonas est un très bon exemple puisqu'au final, il est comme nous. Nous avons toujours une bonne raison de ne pas aller là où Dieu nous appelle. Pas maintenant, Seigneur. Ce n'est pas le bon moment. C'est trop dur pour moi. J'ai encore le temps. Quelqu'un d'autre est plus doué que moi pour ça. Les excuses sont faites pour s'en servir. La suite de l'histoire nous montre que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Et alors que Jonas fuit loin de Dieu, il fait souffler un vent violent sur la mer qui amène les passagers du bateau où Jonas se trouve à jeter Jonas dans l'eau. Là, il se fera avaler par un gros poisson. Recraché 3 jours après sur le rivage, Jonas a compris qu'il doit accomplir ce que Dieu lui a demandé. Il va donc annoncer la repentance aux gens de Ninive qui seront sauvés de la destruction car ils se seront repentis. C'est quand même incroyable de s'imaginer que si je n'obéis pas à Dieu, il est capable de m'envoyer 3 jours dans le ventre d'un grand poisson pour que son plan soit amené à bien, soit mené à bien. Comment imaginer après ça que Dieu n'est pas aux commandes de nos vies ? Bien sûr, Dieu n'approuve pas tous nos choix, mais il est capable d'accomplir son plan, quoi que nous fassions. N'es-tu pas soulagé de le savoir ? Je vous raconte d'ailleurs une petite histoire. L'expression « providence divine » a pratiquement disparu aujourd'hui de notre vocabulaire. Mais puisque les plans de Dieu pour notre vie ont déjà été élaborés, il ne nous reste qu'à les découvrir. La plupart d'entre nous ne comprenons pas vraiment la manière dont Dieu nous conduit. C'est seulement des années plus tard, avec le recul, que nous nous rendons parfois compte des détails de son plan. Paul écrivit « J'espère vous rendre visite quand je me rendrai en Espagne ». Mais il ne put s'y rendre. Par contre, il échoua dans l'une des plus terribles prisons romaines où il se mit à écrire ses plus belles lettres. Puisque nous savons que Dieu dirige chacun de nos pas, pourquoi manquons-nous si souvent de confiance ? Pourquoi nous plaignons-nous si souvent ? L'un des meilleurs prédicateurs de Grande-Bretagne, Stuart Holden, avait été invité à prêcher au cours de l'une des plus importantes conventions des États-Unis. Mais il décommanda son voyage au dernier moment parce qu'il estima que la santé déclinante de sa femme exigeait plutôt sa présence à ses côtés. Bien qu'ayant acheté son passage sur le bateau, il n'embarqua pas et laissa passer sa chance d'aller prêcher de l'autre côté de l'Atlantique. En mari dévoué, Holden se consacra à soigner sa femme et essaya d'oublier l'occasion qu'il venait de rejeter. Nous nous décourageons très vite lorsque les plans que nous avons élaborés tombent à l'eau. Il nous semble que nous avons perdu à jamais les plus belles chances de notre vie. Nos plaintes prouvent que nous ne connaissons pas Dieu aussi bien que nous le prétendons. Ces retards ou ces échecs apparents sont souvent le moyen utilisé par notre Père Céleste pour nous protéger de quelques dangers qui nous échappent encore. Ce fut sans aucun doute le cas de Stuart Holden. Jusqu'à son dernier jour, il ne se posa jamais plus de questions sur la manière dont Dieu orchestrait chaque instant de sa vie. Le billet de bateau qu'il n'utilisa jamais, mais qu'il conserva le reste de sa vie, correspondait à un passage sur le plus luxueux et le plus récent des paquebots de l'époque, le Titanic. Psaume 23, verset 3. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Des forces. Nous en avons bien besoin. Quand nous faiblissons, quand nous manquons de courage, quand il devient dur d'avancer, nous avons besoin de force. Et c'est auprès de Dieu que nous pouvons la retrouver. Ésaïe 40, versets 29 et 31 à 31 nous dit « Il redonne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. J'aime particulièrement aussi ce passage parce qu'il parle à tous les âges. Il parle aux ados, aux jeunes, aux adultes, aux vieillards. Nous avons tous besoin de renouveler nos forces et pour ça, il nous faut être en action, affairés aux affaires du Seigneur. On dit toujours « moins on en fait, moins on a envie d'en faire ». Cette expression est valable dans la vie chrétienne. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on a l'impression que Dieu est loin. Moins nous consacrons notre vie à Dieu, moins nous voyons Dieu à l'œuvre dans notre vie. Vous savez, je n'ai jamais vécu autant de choses que lorsque je me suis mis au service de Dieu. Quand on, par exemple, je dois préparer un message, lorsqu'il y a un rassemblement de groupes de jeunes, lorsqu'il faut chanter dans la cantate. Tiens d'ailleurs, la prochaine parole me rappelle le chant de Jésus et de Pierre que j'ai chanté avec Samuel. Sur le sentier de la justice, mon Père, tu m'as envoyé. J'ai marché jusqu'au lieu propice, là je viens faire ta volonté. Dieu nous conduit sur le sentier de la justice. Mais qu'est-ce que donc ce sentier de la justice ? Pour expliquer le sentier de la justice, je vais vous lire le commentaire d'un auteur que j'ai trouvé sur Internet. Le Seigneur a mis devant chaque personne une voie à suivre, afin de vivre heureux sur terre et hériter du royaume des cieux, l'issue de ce pèlerinage terrestre. C'est ce que la Bible appelle le sentier de la justice. Voilà pourquoi nous devons laisser le Dieu vivant nous conduire dans son chemin qui mène au bonheur éternel. Ce bien-être que l'homme cherche vainement et qui ne se trouve qu'en Jésus, le roi des rois. David, auteur du psaume 23, fut un modèle de fidélité envers l'Éternel, son Dieu, car il savait s'humilier devant lui pour implorer sa grâce. Et il était délivré des ennemis plus forts que lui. En effet, le malin, le péché, la maladie, le chômage, les soucis, l'incrédulité sont des puissants ennemis qui se dressent contre le bonheur de l'enfant de Dieu. Ils constituent des forteresses que nous devons renverser en prenant les armes avec lesquelles nous combattons, qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Raison pour laquelle tu dois combattre le bon combat et saisir la vie éternelle. Marcher dans les sentiers de la justice, c'est honorer le Seigneur Dieu en faisant sa sainte volonté. Cela permet d'obtenir l'exaucement des prières. Ainsi, toute prière faite au nom de Jésus déclenche l'intervention du Seigneur en faveur de son enfant. Beaucoup de frères et de sœurs s'inquiètent au sujet de la prospérité. Cependant, votre bonheur fait partie du projet magnifique de Dieu qui veut que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour nous sauver, et cette grâce nous est offerte afin que nous vivions heureux. Quel bonheur de savoir que Dieu est sur notre chemin, qu'il marche avec nous et qu'il nous tient la main sur ce chemin. Alors reprenons des forces et marchons sur le sentier de la justice. Psaume 23, verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Nous sommes tous démunis face à la mort. Elle signifie pour nous la fin de la vie. Et cela peut avoir un caractère effrayant si nous ne connaissons pas notre avenir après la mort. Ici, le passage nous rassure. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Nous n'avons rien à craindre face à la mort, car le Seigneur est avec nous. Il nous conduira même dans cette épreuve. Et c'est un vrai réconfort et un soulagement de savoir cela. Connaître notre destinée éternelle nous permet de lâcher prise, car nous savons que nous sommes entre de bonnes mains. Choisir entre la vie et la mort n'est pas un choix compliqué. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur de choisir Dieu parce qu'il m'offrait cette possibilité. Est-ce que je choisissais Dieu ou est-ce que je choisissais ce qu'il m'offrait? C'est-à-dire que forcément, quand on met l'un vis-à-vis de l'autre, il n'y a pas photo, on choisit le paradis. Mais est-ce que c'est vraiment le fait de croire en Dieu qui me motive ou est-ce que c'est l'offre qu'il me propose? Un petit peu comme une assurance ou à la banque, etc. Seulement, comme la photo, elle peut le prétendre, comme la chanson, elle peut le prétendre, on n'ira pas tous au paradis et seuls ceux qui ont choisi Dieu et qui ont fait sa volonté iront au ciel rejoindre le Seigneur. C'est la parole de Matthieu 7, verset 21 qui nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. J'aimerais vous proposer un petit temps maintenant, une petite pause. Alors, ce n'est pas une expérience de lâcher prise, etc. Mais j'aimerais simplement qu'on puisse prendre 5 minutes, même pas 5 minutes, mais qu'on puisse fermer les yeux, si vous voulez bien fermer les yeux. Et j'aimerais prendre 5 minutes pour réfléchir à ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant. Depuis le début de mon partage, tu penses sûrement à tout un tas de choses. Tu penses à tout ce qui te pèse, tout ce que tu n'as peut-être pas fait pour Dieu, tout ce que tu aurais aimé faire pour lui, tout ce que tu aurais aimé accomplir pour Dieu. Eh bien, respire, souffle, dis-toi que ce qui est passé est passé. Dis-toi que Dieu est ce bon berger qui te conduit. Il te connaît par cœur, c'est lui qui t'a créé. Il connaît toute ta vie du début à la fin. Tu peux lâcher prise sur ce qui te retient, sur ce qui t'a pesé jusqu'à aujourd'hui, sur ce peut-être que tu n'as pas pu faire pour Dieu jusqu'à aujourd'hui. Reprends courage, reprends des forces, Parce que Dieu est ton réconfort, il est ton appui. Tu peux lui faire confiance. Rappelle-toi qu'il est aux commandes de ta vie, c'est lui le pilote de ta vie. Il y a eu sûrement des hauts et des bas aujourd'hui dans ta vie, il y en aura encore. La vie elle est faite comme ça, et c'est aussi pour éviter l'ennui. Mais souviens-toi, Dieu a toujours été et il sera toujours avec toi sur le chemin. Avec le prochain verset, on va pouvoir aussi faire autre chose, on va pouvoir partager le repas du Seigneur. Parce que le prochain verset, c'est le psaume 23, verset 5, il nous dit « Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. » Ici, on passe du berger qui conduit à l'hôte qui reçoit. Dieu, il nous invite à sa table, il nous invite à son festin, devant même nos adversaires qui se trouvent en face de nous. Parce que oui, Dieu dresse une table devant nous avec un festin, et cela n'empêche pas d'avoir des adversaires qui sont là en face de nous. Dieu a rempli une table avec toutes des bonnes choses, où rien ne manque, et tout ça est pour nous. Et je peux m'y restaurer à chaque instant. Jésus pourvoit à tous mes besoins. Et nous avons ce privilège de pouvoir être à la table du Seigneur, et l'ennemi ne peut rien faire. Par la scène, on va partager ce moment où est-ce qu'on se rappelle la mort de Jésus. On se rappelle ce que le Seigneur a fait et on se rappelle qu'un jour le Seigneur reviendra nous chercher. On rappelle à tout le monde l'œuvre que Dieu a accomplie et on proclame son retour. Quant à l'huile, pour savoir, il était coutume dans le Proche-Orient de verser de l'huile parfumée sur un invité et que celui-ci soit sous la protection de son hôte à n'importe quel prix. C'est ce genre de protection que nous offre Dieu. Même quand nous sommes cernés par l'ennemi, nous sommes protégés par l'onction de Dieu. L'huile ou l'onction, le fait de verser l'huile sur quelqu'un, est un symbole de bénédiction, de protection et d'appel. La Bible dit que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle et libérer les captifs du péché. Après son départ, Christ, lui, nous a fait le don du Saint-Esprit et nous avons reçu ce même esprit. Maintenant, nous sommes tous oints en tant que chrétiens, nous sommes choisis en vue d'accomplir le dessein particulier que Dieu a préparé pour nous. Alors, je vous propose de prendre ce temps de Sainte-Cène et ce temps de prière ensemble, alors que nous lisons ce verset, et nous partagerons le dernier verset tous ensemble par la suite. Je ne sais pas qui est-ce qui fait la scène. Alors, je vais partager avec vous le dernier verset du psaume 23. Le dernier verset, c'est le psaume 23, verset 6, qui nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Je souhaiterais vous laisser repartir avec ce verset pour qu'il vous accompagne. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent en ce jour, en ce dimanche et tous les jours de votre vie. Le Seigneur nous accorde ses bénédictions. Il est avec nous tous les jours et il le sera jusqu'à la fin comme il l'a promis. Garder ça à l'esprit nous permet d'expérimenter le lâcher-prise et d'accepter les choses comme elles viennent. Car peu importe ce qui est devant nous, puisque nous sommes avec le Seigneur. Savoir que Dieu est aux commandes de notre vie devrait nous rassurer. Confiez-vous en lui, revenez chaque jour dans sa maison et le Seigneur sera avec vous jusqu'à la fin. J'aime ce parallèle aussi, je ne sais pas si c'est volontaire de la part de David ou... sûrement il doit avoir une similitude entre les deux, mais on voit que Dieu nous dit, enfin Jésus quand il s'en va, il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Et là David, il dit « Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Eh bien je pense qu'il y a une similitude et c'est vrai que c'est important du coup de revenir dans la maison de l'Éternel et d'aller à la maison de l'Éternel chaque jour et que vous puissiez aussi du coup avoir ça à l'esprit et savoir que Dieu vous accompagne sur ce sentier de justice et savoir que le bonheur et la grâce vous accompagne quoi qu'il arrive.